France Inter, le 18-20.
Nous sommes, je suis moi qui vous parle et beaucoup d'autres aussi, tous ceux en gros qui ont plus de 40 ans, de la pure génération sida. Notre sexualité, nous l'avons découverte au pire moment, dans ces années où on avait compris que le sida n'épargnait personne et que s'en protéger était une question de vie ou de mort. On a appris, on a eu peur en lisant Hervé Guibert, en lisant Cyril Collard. Aujourd'hui, la lutte contre le sida est au milieu du guet. C'est ce que disent les associations, la banalisation guette. Et banalisation, ça veut dire qu'un jeune sur deux avant 17 ans n'utilise pas de préservatif parce qu'il n'en a pas sous la main. Ça veut dire que 22% des jeunes ne se sentent pas informés. Et en effet, certains croient encore que la pilule du lendemain évite le sida. Ils sont 21% à penser qu'on peut attraper le sida avec un baiser, 25 ans après Clémentine Sélarié. Résultat, le sida touche 6400 personnes par an. Et on est à ce qu'on appelle un plateau. Ça veut dire que le chiffre ne bouge plus. Il ne monte plus, mais il ne baisse pas non plus. C'est dire donc combien l'information reste importante, c'est dire combien il faut répéter les choses, les expliquer, comment se protéger, où en est la maladie, qu'est-ce qui est dangereux, comment dire tout ça et comment laisser tout le poids aussi, la prévention, l'action, l'information aux seules associations. Parfois, c'est très lourd à porter. Demain commence le SIDAction, 25 ans de SIDAction, l'occasion de poser sur la table les questions, même les plus anodines, celles que vous croyez naïves, celles que vous ne posez pas chez vous. Mettons tout sur la table ce soir et bienvenue à tous.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Elisabeth, bonsoir, c'est vous la première et soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci pour vos émissions et certainement merci aux invités que vous avez auprès de vous. Donc moi j'ai peut-être votre âge, moi aussi je suis dans la quarantaine.
Et un peu moins du coup.
Et donc je me souviens très bien, donc je ne sais plus si j'étais en troisième ou en seconde, donc scolarisée, que nous avions une professeure, on appelait ça Science Nat à l'époque, SVT maintenant, et qui nous avait fait une heure de cours sur le sida et qui avait passé 20 minutes à nous expliquer comment le mettre avec une banane. Elle avait utilisé une banane.
Comment mettre le préservatif.
Exactement. Et du coup, ça avait complètement démystifié le préservatif. Enfin, en tout cas, elle nous a convaincus. Et quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, les préservatifs, on pouvait les acheter incognito chez tous les buralistes. Donc ils étaient à 1 franc, donc 60 centimes aujourd'hui. Et ça nous a beaucoup aidé aussi à avoir, à prendre la décision d'avoir des préservatifs. Ça, c'était franchement très très bien. Et en vous écoutant en introduction, en parlant du SIDAction, je me souviens que j'avais pris un café avec des amis la veille du SIDAction et que le café était servi avec un préservatif pour justement nous sensibiliser au SIDA et au SIDAction.
Et vous avez des enfants, Elisabeth, aujourd'hui ou pas?
Non.
D'accord. Bah voilà, je voulais savoir
parce que j'ai un neveu.
Voilà, parce que je voulais savoir si vous saviez ce qui se passait dans les salles de cours aujourd'hui et si vous étiez étonnée qu'on en parle finalement peut-être moins qu'on en avait parlé à votre époque ou pas en fait. Mais on en parlera avec nos invités. Merci.
Tout à fait, parce que ce que connaissent la sexualité, c'est la pornographie maintenant, c'est YouPorn et voilà quoi. Donc c'est important de lui en parler, donc je lui en parle et donc il est tout à fait avisé. Et puis moi je lui ai dit que c'est la première fois que j'ai eu un rapport sexuel. C'était avec un préservatif et c'était comme ça avec tous mes amis.
Et merci beaucoup Elisabeth, merci pour cette entrée en matière qui pose bien le débat et tant mieux. Pour en parler ensemble jusqu'à 20h, Sandrine Fournier est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Directrice des programmes France du SIDAction. Bonsoir Aline Pelletier. Bonsoir. Vous êtes chargée de projet à l'association Arrêt Média qui organise de la prévention dans les écoles et dans les lycées justement. Donc vous allez pouvoir nous parler de ce qui se passe aujourd'hui. Et bonsoir Vincent Gentil. Vous êtes médecin des hôpitaux, cofondateur de l'association Adovie qui prend en charge des adolescents séropositifs. Aline Pelletier, tiens, puisque vous parlez vous de la prévention dans les écoles et dans les lycées. Elisabeth a ses souvenirs assez précis au fond de cette époque-là, l'époque où on parlait encore en franc. Oui. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Est-ce que c'est mieux fait, mieux amené? Est-ce que ça reste compliqué de parler de ces sujets dans les écoles?
Est-ce que c'est mieux? C'est différent. C'est toujours pas compliqué, mais pas simple non plus. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, un discours très particulier et très ciblé à avoir en tête.
Mais du coup, le plus dur, c'est quoi? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est compliqué, en fait?
Ce qui est compliqué, c'est d'y aller, parce qu'une fois qu'on y est, finalement, c'est pas si compliqué. On a, alors je prêche un peu pour ma paroisse, on a un savoir-faire, une expertise. Donc, ce qui fait que pour nous, une fois qu'on est devant une classe, c'est pas difficile. Après, il faut que les établissements scolaires nous sollicitent. Ou que nous les sollicitions, mais aussi en fonction de nos moyens, nos ressources humaines, nos financements. Et c'est plus ça finalement les barrages aujourd'hui que vraiment d'en parler, puisque pour nous c'est notre métier.
Et les questions que vous avez dans les classes notamment ressemblent à quoi? Est-ce que vous êtes des fois scotchés par la naïveté aujourd'hui, ou est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plutôt bien informés
en fait? L'enjeu c'est de justement pas être scotché et de pas être choqué finalement de leur ignorance et de savoir y répondre correctement sans les stigmatiser de quelque manière que ce soit. Donc les questions peuvent être effectivement très naïves,
mais c'est pas
on
grave.
Est là pour ça.
Absolument.
On est là pour y répondre et l'important c'est qu'elles émergent.
Sandrine Fournier, dans ce que dit Aline Pelletier, il faut encore qu'on nous sollicite. Est-ce que vous avez le sentiment que les écoles sollicitent de moins en moins les associations parce qu'elles jugent que c'est moins important que ça a pu l'être à une période?
Non, à vrai dire c'est très inégal. J'ai bien peur que la raison d'ailleurs ne soit pas possiblement celle-là, mais plutôt la pression de certains parents, en fait. Hein, on a vu des campagnes discréditant le fait de parler de sexualité au lycée, au collège. Non, le problème en France, c'est que cette éducation sexuelle, qui est normalement obligatoire, n'est pas réalisée, n'est pas effective, hein, puisque vous faisiez référence à notre sondage, hein, un quart des jeunes, quand même, disent n'avoir jamais reçu aucun enseignement. Lorsque c'est réalisé, alors c'est pas toujours adéquatement réalisé, moi je pense qu'en effet, les associations, et surtout les associations qui emploient des pairs, c'est-à-dire des gens relativement jeunes, pour parler à des jeunes, sont probablement celles qui le font le plus efficacement. Et puis, l'autre problématique, on évoquait le préservatif, c'est précisément qu'on sait très bien que là aussi, c'est très inégal. Les distributeurs ne sont pas réapprovisionnés toujours, dysfonctionnent, etc. etc.
C'est fou parce qu'à mon époque et celle d'Elisabeth aussi, on se battait, vous battiez, pour qu'il y ait des distributeurs de préservatifs, y compris dans les écoles. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un nombre de distributeurs de préservatifs nécessaires dans les écoles, par exemple? Est-ce qu'il faut toujours aller voir l'infirmière scolaire, par exemple?
Alors, c'est bien le problème, c'est que les distributeurs de préservatifs ne sont pas gratuits, en fait, ne mettent pas à disposition gratuitement. Donc, être obligé de passer par l'infirmière scolaire, est-ce que, franchement, on est à l'aise pour en prendre plus d'un, par exemple? Bon, ce qui est quand même pas très utile quand on a une sexualité un peu active, etc. De même, on a vu la ministre de la Santé. Bon, évidemment, on se réjouit qu'elle propose le remboursement du préservatif. Mais quand évidemment, on imagine qu'il faut passer devant un médecin.
Bah oui, il faut qu'il écrive une ordonnance.
Il faut qu'il écrive une ordonnance. Un gamin, est-ce qu'on est à l'aise à 17 ans ou à 15 ans pour parler sexualité avec son médecin de famille, etc., etc. Bon, on voit bien que là, il y a des progrès à faire.
Je voudrais qu'on finisse ce tour de table, Vincent Gentil. Vous qui prenez en charge les adolescents séropositifs, ce que vous voyez aujourd'hui, en fait, qui sont contaminés, c'est qui, en fait? Est-ce qu'on peut faire une espèce de profil ou pas?
Il y a beaucoup de jeunes filles. C'est ce qu'on voit dans les chiffres français. Hein. Là où je travaillais avant, c'était en Seine-Saint-Denis. Il y avait très peu de jeunes gays. Bon. Et c'est beaucoup à la fois des transmissions materno-fœtales et des viols. Donc c'est une population qui a ses souffrances très particulière, mais qui se pose les mêmes questions que des jeunes qui n'auraient pas le VIH, mais qui a des raisons de s'inquiéter quand on voit le questionnaire où il y a encore des croyances invraisemblables sur les transmissions sueur, la main, les questions sont les mêmes avec des de temps en temps pas de sexualité. Je suis séropositif, donc je veux pas transmettre et je n'ai pas de sexualité. Et à l'inverse, comme tout un chacun adolescent devant la découverte assez fantastique de cette sexualité, faire comme si on n'avait rien. Ce qui pose évidemment des problèmes. Et je trouve que il faut certainement pas, moi je suis allé beaucoup dans les écoles aussi, il faut certainement pas être choqué par ce qui est dit, parce que ce qui est dit,
surtout pas,
c'est aussi le film porno ou le truc de la veille qu'ils ont vu. Alors bon, Rabelais a toujours existé, l'avantage du porno c'est qu'au moins l'anatomie est bien connue maintenant de à peu près tous les jeunes qui y regardent, il y en a beaucoup. Mais après ils savent, après il y a tous les côtés négatifs dont je n'ai pas envie de parler, mais qui ne sont pas du tout subtils par rapport à la relation à l'autre, la découverte de soi, le plaisir. Voilà.
Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Dominique, on vous écoute.
Merci. Alors, moi, je souhaitais intervenir et poser peut-être une question. En fait, moi, je suis séropositif et en fait, on a parlé du dépistage chez les jeunes, mais le dépistage, en tout cas, c'est pas uniquement chez les jeunes. Je voulais juste dire ça déjà. Ensuite, je pense qu'on arrivera à peut-être mettre à mieux contrôler la maladie que si on lutte contre un certain nombre de choses comme les discriminations. Ça me paraît important. Mais surtout, ce que je voulais demander, en fait, c'est ne croyez-vous pas que justement, en fait, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de freins à parler de son identité de genre et de son identité sexuelle et donc de ses pratiques. Il me semble que c'est très important de pouvoir, en fait, libérer la parole par rapport à ça et que l'on puisse, sans jugement et avec beaucoup de bienveillance, pouvoir s'exprimer dans ce domaine. En fait, je pense que ça favoriserait l'accès au dépistage. Voilà ce que j'avais envie de poser comme question.
Merci beaucoup, Dominique. Merci pour ce témoignage. Sandrine Fournier, il a raison sur beaucoup de points, probablement, notre ami Dominique. Point par point, d'abord, effectivement, on parle des jeunes, et c'est important qu'on parle des jeunes, on en parlera beaucoup parce qu'il y a un énorme travail de prévention à faire auprès d'eux, mais pas que. Il y a aussi une autre tranche d'âge, évidemment, toutes les tranches au-dessus, d'ailleurs, qui sont concernées par...
Tout à fait, d'autant plus, il a d'autant plus raison qu'aujourd'hui, je dirais, pour les jeunes, le VIH, le sida est une maladie de vieux, et pour les vieux aussi. Mm-hmm. Pour les vieux, le sida est une maladie de jeunes, et donc si, sur les 6400 découvertes de positivité en 2017, 12% concernent des jeunes, c'est quand même plus de 750 jeunes, hein, 22% concernent les plus de 50 ans. Voilà. Mm-hmm. Or, on voit bien que les campagnes ne ciblent pas précisément ces deux tranches d'âge. Donc ça, c'est...
Intéressant, qu'est-ce qu'elles ciblent les campagnes? Parce que ça veut dire qu'elles ne regardent pas les chiffres. Enfin, je veux dire,
non,
honnêtement...
c'est pas tout à fait ça, parce que la plus forte proportion de personnes concernées sont plutôt âgées, je dirais, entre 30 et 40. Mais on voit effectivement augmenter d'année après année.
Ce que dit Dominique aussi, il parle de discrimination. En fait.
Alors ça, c'est vraiment majeur. Mmh. C'est-à-dire que, y compris dans notre sondage, on voit bien que lorsqu'on interroge les jeunes sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas réalisé de tests de dépistage dans les 12 derniers mois. Mmh. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans le détail de ces réponses, on voit que les non-hétérosexuels, ce sont en réalité une majorité de jeunes gays, déclarent ne pas avoir réalisé de dépistage par peur du résultat. Mmh. Bon, alors, la peur, aujourd'hui...
Ce qui n'a pas de sens, mais qui est très humain aussi.
Tout à fait, ouais. C'est très humain, mais la peur, elle est aussi ancrée, et je dirais même probablement d'abord ancrée aujourd'hui, dans la crainte de la discrimination. Lorsqu'on vit avec le VIH. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien vraiment quelque chose sur lequel on n'a absolument fait aucun progrès, alors que les progrès scientifiques, eux, sont considérables, c'est ça, c'est la discrimination, c'est le rejet des personnes séropositives, c'est le jugement des personnes séropositives.
Allez, Aline Pelletier, j'allais justement vous poser la question, vous qui voyez les jeunes, effectivement.
Alors, en fait,
on a toujours un peu le sentiment que maintenant c'est fait, les histoires d'orientation sexuelle, etc. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Évidemment que non.
Alors,
c'est bien
évidemment
plus
que non. En fait, je voulais aussi rebondir par rapport au dépistage, puisqu'à Arémédia, en plus de la prévention qu'on peut faire dans les établissements scolaires, on propose des dépistages dans les associations communautaires qui accueillent des publics à risque. Mm-hmm. Ce qui pallie aussi finalement aux discriminations et qui favorise ce dont parlait Dominique, de pouvoir parler en toute bienveillance et sans jugement de ses prises de risque ou simplement de son envie de faire un dépistage. Donc l'idée, c'est de multiplier les opportunités, d'être dans les lieux qui sont visités par ces personnes pour que, en allant vers elles, le dépistage soit facilité, puisqu'il y a encore beaucoup de freins à se rendre dans des centres de dépistage, bien qu'ils soient gratuits, anonymes, confidentiels.
Et est-ce que les gens le savent réellement, Vincent Gentil, que c'est facile aujourd'hui de se faire dépister? Est-ce qu'on le sait, ça, sincèrement?
Si c'est facile de se faire dépister, moi, je trouve que...
Que c'est pas si simple?
Je crois que ça doit être très hétérogène en fonction des endroits en France et dans les DOM. Je pense que si vous êtes à Paris, ne pas se faire dépister, c'est impossible. C'est tellement facile de se faire dépister avec tous les sigils qui existent. C'est anonyme, c'est gratuit.
Comme disait Sandrine, c'est qu'on n'a pas envie de savoir.
Là où je travaille, à l'Institut Fournier, il y a un centre de dépistage qui fonctionne tous les jours. Donc je trouve que, mais je suis pas sûr que dans le fin fond de départements français, qu'il s'agisse des DOM ou qu'il s'agisse de zones un peu abandonnées en général en France, le dépistage soit facile. Alors, Voilà. Alors après, tout le monde craint une mauvaise nouvelle. Hein. Ouais. C'est pas une caractéristique de jeunes. Hein. Les jeunes ne veulent pas être malades, ça c'est une chose. Mais je connais pas un adulte qui soit content d'avoir une mauvaise nouvelle.
Enfin... Sandrine Fournier, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, absolument. Les chiffres sont assez significatifs. C'est-à-dire, aujourd'hui, le délai moyen entre le moment où on est infecté et le moment où on est diagnostiqué est quand même de 3 ans. Mmh. Or, on sait que l'épidémie en France, la dynamique épidémique, elle se situe précisément là. C'est-à-dire que les personnes qui transmettent le VIH aujourd'hui ignorent qu'elles le portent.
Mmh. Est-ce qu'on a perdu un temps considérable, j'allais presque dire voire fatal, j'en sais rien. Est-ce qu'on a perdu un temps vraiment considérable dans ces 3 ans-là ou pas?
Alors oui, certainement. Alors évidemment, si la personne infectée et ne se sachant pas infectée a de multiples partenaires, vous imaginez bien comment évidemment la dynamique
peut se poursuivre. Bonsoir Brice.
Oui, bonsoir.
Bienvenue Brice au téléphone sonne.
Merci beaucoup de prendre mon témoignage. Enfin, moi, ce que je voulais dire,
allez-y.
C'est quel est aussi le rôle des parents. Je veux dire, la plupart des parents aujourd'hui qui ont des enfants adolescents ou en âge de connaître un peu la sexualité ont tous vécu les années un peu de psychose sur les maladies sexuellement transmissibles et notamment le sida. Et ils n'arrivent pas à transmettre cette habitude qui était d'avoir un préservatif dans la poche, enfin dans la poche avec nous, et on arrive à un problème aujourd'hui qui est plutôt grave à ce que vous dites. Les parents ne doivent pas se dédouaner de ce problème et de reporter tous les problèmes vis-à-vis de l'éducation nationale. Parce que moi, quand j'étais dans les années 90 adolescent, à l'école, oui, j'avais des informations, mais maintenant, c'est à moi de les transmettre aux enfants.
Et vous, et vos enfants vous parlent, Brice? Non, je pose la question parce que c'est ça qui est pas évident, en fait. Est-ce que c'est des discussions que vous pouvez avoir, vous, facilement avec vos enfants ou pas?
Mais c'est à nous d'engager la discussion, même si elles sont compliquées. Mais de tout temps, ces discussions ont été compliquées sur la sexualité entre parents et enfants. Mais il faut l'engager et surtout de marteler sur les risques associés à ce genre de choses. Alors nous, à l'époque, c'était la psychose. Aujourd'hui, ça l'est peut-être moins. Mais il ne faut pas lever la vigilance et ne pas surtout se reposer sur l'éducation nationale ou les autorités ou je ne sais quoi.
Merci beaucoup Brice pour ces remarques et ces questions. Aline Pelletier, oui, ne pas se reposer sur l'éducation nationale, ne pas se reposer sur les associations aussi non plus d'ailleurs, parce que c'est un peu sur vos épaules plutôt, non, que repose tout ce boulot. Sauf que parler aux enfants, c'est parfois difficile pour les parents et inversement.
Oui, c'est parfois difficile et effectivement... Brice, vous parliez de la psychose qui a nourri un discours à une époque qui on peut s'en réjouir, par ailleurs, n'a plus tout à fait lieu d'être aujourd'hui et qui vient transformer l'information. C'est-à-dire que finalement, il y a plus à avoir cette peur et heureusement. Mais du coup, le discours, il doit être modifié. C'est-à-dire que ça doit être... atténué parce que le risque il est toujours là, mais en même temps on peut que se dire que c'est super toutes ces avancées. Donc le rôle des parents il est évidemment important, mais peut-être qu'il risque d'être aussi contre-productif si on n'est pas confortable avec le sujet et qu'il faut pouvoir trouver peut-être des référents autour de soi, alors dans la famille ou je sais pas, des amis. Mais en tout cas voilà, moi ce que je pense c'est qu'il faut pas y aller si c'est pas confortable.
Sandrine Fournier, c'est des choses que j'imagine vous entendez souvent. Il y a quelques témoignages d'ailleurs qui sont en train de tomber, des infirmières scolaires qui disent, moi, les enfants me parlent à moi. C'est compliqué d'aller demander à ses parents comment le préservatif et comment ça marche et comment je vais faire, etc.
Tout à fait, ça peut ne pas être simple du tout. Par ailleurs, bon, on se construit parfois aussi contre ses parents. Donc, on peut imaginer qu'y compris avec des parents de bonne volonté et qui en effet abordent ces questions avec leurs enfants, pour autant,
on n'est pas certain que les enfants retiennent. Et je dirais, moi j'en suis d'autant moins certaine que lorsqu'on regarde un peu les études comportementales qui ont beaucoup été réalisées auprès des gays notamment, mm-hmm. ce qui est frappant, c'est de constater qu'au fond, ce qui fonctionne, c'est les effets de enfin je veux dire, c'est l'époque. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, les gens de toutes les classes d'âge, chez les gays, ce qui est très frappant, c'est ça, c'est que les pratiques sont semblables pour toutes les classes d'âge à un moment donné. Donc il y a bien, ça se construit socialement aussi, la sexualité, en fait, c'est ça que ça dit. Donc les parents, bien sûr qu'on les encourage à aborder ça avec leurs enfants, mais pour autant, quand dans un contexte plus large, on se protège moins, eh bien, ça produit ça.
Et je voudrais qu'on écoute Mathéo. Bonsoir Mathéo.
Oui, bonsoir, merci beaucoup de prendre mon appel. Je voulais vous faire part ce soir d'un témoignage. Voilà, j'ai 25 ans, il y a 2 ans je suis rentré dans un institut régional de travail social. Et avec plusieurs étudiants, on a soumis la proposition d'installer un distributeur de préservatifs au bureau de la vie étudiante. Et en fait, on a été très choqués parce qu'on a eu une grosse levée de boucliers, mais pas du tout de la part du corps enseignant, mais de la part des étudiants, en fait, qui font partie de ma génération. Et les arguments qui ont été donnés, c'est que on a suffisamment de prévention sur ce sujet-là, mais que l'installation d'un distributeur de préservatifs, ça ne ferait qu'augmenter les pratiques sexuelles au sein de ce local-là. Alors qu'on estime qu'en tant que travailleur social, on a aussi une très très grande responsabilité envers ce sujet-là.
Alors je veux surtout pas faire de mais vous, il est où votre institut régional de travailleurs sociaux, d'abord géographiquement, juste par curiosité?
Alors dans le sud de la France.
D'accord. Et est-ce que c'est une institution religieuse d'une religion
Alors,
quelle qu'elle
pas
soit
du
ou
tout.
Pas? D'accord.
Pas
voilà.
du tout. Pas du tout.
Non, mais c'est intéressant de savoir aussi, justement. Et qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, Mathéo? Quand vous tombez de votre chaise, quand on vous répond des choses comme ça et qu'on a 23, 24 ou 25 ans, qu'est-ce que vous répondez?
Ben, en fait, c'est vrai que sur le coup, on a été très, très choqués parce que c'est vrai que, voilà, au collège, au lycée, on a eu des cours de prévention sur l'installation du préservatif, sur les dangers, sur les maladies qui peuvent être transmises aussi. Et c'est vrai que dans les lycées, dans les facultés qu'on a pu fréquenter, on a pu trouver ces distributeurs de préservatifs qui ont pu, à un moment donné, voilà, nous dépanner aussi, nous donner des repères sur les lieux où on pouvait trouver des moyens d'éviter tout ça. Et c'est vrai que, en fait, ça a été très très compliqué de parler avec eux, mais parce qu'on a senti qu'il y avait un mur, quoi.
Étonnant, merci beaucoup Mathéo, vraiment. Et c'est vrai, Vincent Gentil, que les bras en tombent un peu quand même. Enfin, je veux dire, on est en 2019. Que diable.
On est vraiment étonné parce que ça ressemble aux réactions réactionnaires qui ont surgi lorsqu'on a proposé la pilule.
Ouais.
Où là, tout le monde a dit, mais tout le monde va baiser comme des lapins dès le lendemain. Et c'était des réactions de gens établis qui disaient ça. Et là, que des jeunes eux-mêmes invoquent ce genre d'argument, c'est quand même... C'est quand même ne pas voir la réalité, ne pas se poser les bonnes questions ou ne pas vouloir les affronter. Je suis très étonné quand même.
Sandrine Fournier, quand il y a un refus sur ces questions-là, on peut insister ou pas, en fait, quand on est une association comme la vôtre? Est-ce qu'il faut insister? Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, en fait?
Alors, il faut voir, j'imagine, au cas par cas, dans
bien
ce cas,
sûr,
peut-être le directeur d'établissement, on essaie, en tout cas, il ne faut pas rester sans rien faire.
L'idée, c'est si on venait vous chercher en vous disant, s'il y avait un Mathéo qui vous appelait en disant, vous savez quoi, moi, dans mon lycée, j'ai essayé, puis voilà la réponse qu'on me donne, est-ce que dans ces cas-là, vous dites, il y a la pharmacie à côté, voilà comment ça se passe, ou est-ce qu'on essaye à l'établissement pour dire, attendez, voilà pourquoi c'est important.
Évidemment. Éventuellement, on passe par le ministère de l'Éducation nationale si c'est nécessaire. Bien sûr qu'il faut faire quelque chose.
Hélène, bonsoir.
Oui, bonsoir.
L'éducation nationale, c'est vous, Hélène.
Ouf.
On vous écoute.
Oui, donc moi, je voulais apporter un témoignage. En tant qu'enseignante dans l'enseignement privé, mais sous contrat, donc sous contrat avec l'État, avec les enseignants payés par les impôts, comme les enseignants du public, etc., donc avec les mêmes obligations, pour dire qu'il y avait un tabou et une espèce d'autocensure de beaucoup de directeurs d'établissement qui en fait, refusent de mettre en place... non pas l'éducation SVT, reproduction et tout, qui est bon dans les programmes, mais tout ce qui est ce qu'on appelle éducation à l'affectivité, Voilà, moi, dans mon établissement, je sais que bientôt, il y a des élèves infirmières qui vont venir. C'est un petit collège rural pour parler de l'hygiène de vie, etc. Je me suis dit, chouette, les élèves vont peut-être pouvoir parler aussi de sexualité parce qu'ils sont aussi exposés au porno, enfin, pas moins que ceux des villes et des gros établissements. Et on m'a dit, non, elles ont eu interdiction d'évoquer la question.
Alors, interdiction?
Oui, on leur a dit, il faudra surtout pas parler de ça.
Dites-moi.
Donc voilà, j'ai laissé couler, je suis pas concernée, je ne sais même pas quand cette intervention va avoir lieu, mais ça m'a rappelé d'autres choses dans d'autres établissements ou même en lycée professionnel avec des jeunes adultes, voire des adultes de 20, 21 ans, on m'avait aussi interdit de mettre à disposition les petites plaquettes faites par l'éducation nationale pour la contraception, etc. La belle, c'était pas, dès qu'il s'agissait de faire venir quelqu'un du planning familial, c'était tout juste, les communistes n'allaient pas débarquer. Enfin, on était vraiment dans des choses, et tout ça dans l'établissement actuel où je suis, ce sont des familles plutôt modestes, plutôt rurales, qui ont sans doute un rapport détendu, plus détendu que les familles bourgeoises, un peu coincées avec le corps, etc. Et donc, je comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Et je pense pas que les familles soient demandeuses de ça, en fait. Donc, il y a une espèce d'autocensure des établissements. Bon, je connais que le privé catholique sous contrat, donc je peux pas parler pour le public, mais ça doit être la même chose parfois, je pense.
Merci beaucoup Hélène, est-ce que c'est la même chose parfois Sandrine Fournier, là aussi c'est là qu'on se dit, vous en avez un sacré boulot devant vous, hein, encore, c'est sérieusement, ça. Après 25 ans de site d'action quand même.
Bon, je dirais que c'est d'abord le travail de l'éducation nationale de faire en sorte que effectivement cette éducation soit faite. Nous on essaie de faire pression, mais on a au fond des moyens très limités pour le faire, donc... Non, il y a vraiment du travail, mais ça montre le caractère tout à fait singulier du VIH qui a trait à la sexualité, en fait. Et cette question-là, oui, il y a encore beaucoup de travail.
Le tabou, c'est ça, c'est qu'effectivement, on peut le prendre dans tous les sens. Vincent Gentil, on n'a pas envie de parler sexualité, on n'est pas mûr pour parler, on n'a pas envie, on ne sait pas faire, on ne sait toujours pas faire, y compris autour du sida.
Eh ben, je crois que c'est vrai. Et si on prend les étudiants en médecine, combien d'heures ils ont autour de la sexualité, comment en parler, ça doit aller entre une à deux heures sur tout le cursus des études médicales. Donc, je pense que on est en fait très prude et que il faut vraiment être très militant. Je me souviens être allé avoir été contacté par un directeur d'établissement, qui est public ou privé, je ne sais pas, me demandant si j'étais d'accord pour venir. Je lui dis bien sûr, je suis d'accord pour venir. Et après, il m'a rappelé, à l'évidence, il était sous la pression des professeurs, et il m'a dit, écoutez, les parents m'ont demandé si vous alliez parler d'abstinence. Je lui dis, hors de question. Je ne viens pas parler d'abstinence, sinon ils n'ont pas besoin que je vienne parler de ça. Et c'est tellement dans le cadre d'une discussion globale sur la sexualité, l'affect, voilà, c'est pas que le VIH, c'est la sexualité en général, et ça c'est...
Et juste avant de revenir au standard, je vais pas vous piéger, donc c'est une question pour l'un de vous trois, je ne sais pas, est-ce qu'on est nous en retard en France et d'autres plus en avance, ou au fond, toutes nos sociétés là autour de nous sont à peu près dans cet état-là, c'est-à-dire avec quelques avancées, de vraies avancées aussi évidemment, distribution de préservatifs, etc. Heureusement, ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a 25 ans lorsque vous avez commencé, mais est-ce qu'on est tous aussi en retard? On a tous les mêmes pudibonderies parfois, en fait. Sandrine Fournier, peut-être?
Oui.
Est-ce que vous savez si nos voisins se débrouillent mieux ou pas du tout?
Oui, et de différentes manières, et pour différentes raisons, et dans différents contextes culturels. Mais en réalité, oui, c'est problématique partout.
Pascal, bonsoir.
Oui.
Soyez la bienvenue, Pascal, on vous écoute.
Allô, bonsoir, merci d'avoir pris mon coup de fil. Alors, je voulais témoigner, finalement, ça va pas mal regrouper tout ce qui a été dit, parce que moi, c'est mon mari qui a le sida, et j'ai deux filles adolescentes, et je travaille dans l'éducation nationale.
D'accord.
Donc, mes filles savent que leur père a le sida, nous leur avons dit dès que nous avons pu leur dire, c'est-à-dire vers 12 ans à peu près. Et en fait, l'effet que ça a eu, c'est qu'elles ont été traumatisées par les cours de SVT. Au point que j'ai dû demander au CPE, que mes filles sortent du cours de SVT quand le sida était abordé.
Waouh.
Ah, c'est violent.
Et trop...
Je m'explique.
Allez-y, oui.
Donc, alors, tout en sachant très bien ce que mes filles savent très bien ce que c'est le sida. Je veux dire, pour le coup, et la prévention. Alors, pour ça, tout à l'heure, j'entendais dire que c'était aux familles de le faire. Je le crois pas. Parce que si on n'est pas concerné, on peut pas savoir. Je referme la parenthèse, l'éducation nationale a forcément des choses à faire. Mais pas comme ça. Il faut qu'on évolue. Il faut pas qu'on reste sur la diabolisation du sida d'il y a 15 ans.
Mais attendez, je voudrais bien comprendre pourquoi vos filles sont traumatisées et en cours de SVT, en fait, elles qui sont tellement mieux informées.
J'étais associée et une fois ma fille aînée m'a dit en sortant d'une intervention, genre pour le coup, en plus, c'était le planning familial qui était venu, elle était en quatrième. Ce qu'elle en a tiré comme conclusion, c'est que c'était les prostituées, pour ne pas dire autre chose, qui avaient le sida, ainsi que les homosexuels. Et je trouve que là, il y a un gros problème, quoi. Mmh. Là, il y a un gros problème. Moi, nous ne sommes pas du tout dans ce cas-là, pour le coup, d'une part. Mais tant qu'on associera... c'est difficile de parler du sida par les associations historiques qu'il y a. Voilà. Et moi, j'ai choisi, avec mon mari, qui a très rapidement une limpe, donc, au niveau du cerveau, ça a été compliqué. Je l'ai dit... Nous ne l'avons pas caché à personne. Alors, je suis fonctionnaire d'État, ça m'a pas posé problème. Socialement, nous avons perdu nos amis. Et c'est une réalité. Voilà.
Merci beaucoup, Pascal, pour ce témoignage. Sandrine Fournier, c'est un cas intéressant, évidemment, de celui de Pascal, et surtout ce que ses filles entendent, en fait, qu'elles ont entendu. Le sida, c'est les putes et les gays. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'elles ont entendu.
Alors oui, bon, le sida, enfin d'abord ça concerne tout le monde, en ce sens que si on souhaite vraiment avancer, si on souhaite qu'il y ait moins de contamination, etc., il faut que vraiment les jeunes se protègent de manière systématique et le réflexe d'aller se faire dépister dès lors qu'ils ont une activité sexuelle, qu'ils changent de partenaire, etc. Et ça. En revanche, je pense que précisément, quand on parle du sida, peut-être on ne dit pas suffisamment. On ne parle pas suffisamment des avancées en matière de VIH, et notamment, par exemple, une information qui est encore vraiment trop peu connue, c'est très simplement le fait que lorsqu'on est porteur du VIH aujourd'hui et qu'on prend un traitement, on ne transmet pas le VIH. Donc c'est aussi toutes ces informations. Alors bon, je ne sais pas quelles autres informations ont été données.
Ça veut dire effectivement des informations médicales aussi, des choses très précises, parce qu'il y a des choses qui sont évidemment qui ont beaucoup avancé ces 25 dernières années.
Et par ailleurs, de spécifier que dans certains groupes, en effet, le VIH est plus présent, c'est aussi une réalité. Moi, ça ne me choque pas. En l'occurrence, on ne dispose pas de chiffres concernant les travailleuses du sexe. Mais effectivement, l'exercice de cette profession expose au VIH. C'est une réalité.
Peut-être que c'est une question pour vous, Vincent Gentil, sur franceinter.fr. Il y a un gros travail à faire, nous dit cet internaute, sur la possibilité de dire oui ou non. Souvent, les jeunes filles n'osent pas refuser l'acte sexuel lorsqu'il n'y a pas de préservatif, par crainte du jugement, par crainte de perdre l'autre. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent contaminées, surtout à un jeune âge. Est-ce que ce sont des choses que vous pouvez voir, vous, parfois?
Oui, je trouve une réflexion globale sur la grosse différence entre les filles et les garçons. C'est que la fille, dans sa naïveté de début, croit vraiment qu'elle va perdre le garçon qui peut être son premier amour parce que elle va lui dire non. Donc, moi, quand je vois des jeunes qui se font dépister, je demande à quel âge était le premier rapport et s'il était voulu. Et ben, dans un certain nombre de cas de filles, c'est alors je demande si c'était un viol, on me dit non, c'est pas un viol, mais c'était pas vraiment voulu. Et ça, c'est l'attitude est toujours la même, c'est j'avais peur de le perdre. Ce qui est une attitude qu'on peut vraiment avoir quand on est jeune et on débute dans sa vie affective et sexuelle, mais c'est vraiment dommage, quoi. C'est l'inégalité entre les filles et les garçons. Tu regardes, le garçon se demande pas si dit j'avais pas envie, ça n'existe pas, ça. Donc c'est.
Aline Pelletier, j'allais vous poser la question, vous qui avez affaire à des jeunes. Des fois, on a envie de leur poser la question, qui a un préservatif dans la poche? Est-ce que ce sont plutôt les garçons? Est-ce que ce sont plutôt les filles?
Je saurais pas vraiment répondre à ça. Ce que ça m'évoque, c'est que effectivement, c'est tout l'enjeu des interventions en milieu scolaire. c'est de parler de sexualité de manière très globale et que déjà le consentement, c'est parler aussi finalement de risques.
Sure.
Parce qu'un rapport non consenti, c'est un rapport qui sera certainement encore moins protégé, parce que si on n'ose pas dire non, comment on va réussir à imposer le préservatif? Donc c'est tous ces enjeux-là qui sont présents aujourd'hui dans nos animations de prévention.
Sandrine Fournier?
Oui, moi ce que ça m'évoque, c'est que vraiment l'amour n'est pas très bon. C'est précisément, alors quand bien même on a accès effectivement à des séances de prévention au collège et au lycée, vous l'avez compris, ça n'est pas toujours le cas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est commencer à la maternelle. Mmh. Il ne s'agit pas de parler de sexe aux enfants de 5 ans.
J'entends le standard sonner, là.
Évidemment. Non, il s'agit, bien évidemment, à des enfants de 5 ans, de leur parler peut-être de prendre soin d'eux, peut-être de respecter le corps des autres, etc., les différences, etc., de renforcer ces compétences-là pour négocier, y compris le préservatif plus tard.
Oui, absolument.
Et on entend Vincent Gentil qui approuve ce que vous venez de dire. Il nous reste à peine une minute, je voudrais qu'on entendre Floriane. Bonsoir Floriane.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Floriane.
Merci.
Allez-y, on vous écoute.
Je vous remercie pour vos émissions, pour la qualité de l'émission.
Allez-y. Vous êtes là? Ah ben voilà qu'on a perdu Floriane, c'est quand même un souci. Est-ce que vous êtes là Floriane? On vous a entendu nous remercier, puis plus rien, cela dit, c'était bien agréable. Je l'ai, la question de Floriane, en fait, je l'ai vue, elle explique qu'elle est fille d'infirmière et que sa mère laissait toujours un petit pot de préservatif qui traînait sans poser de questions pour être sûre que Floriane allait pouvoir en napper un au passage, je sais pas si elle a des frères et sœurs, et c'était pour pouvoir finir sur une note positive, Sandrine Fournier. Il y a aussi des choses qui sont très... qu'on peut totalement dédramatiser, en fait, et le préservatif est une chose qu'on peut dédramatiser très facilement.
Oui, mais qu'on peut même érotiser. Enfin, je veux dire qu'il y a des jeux érotiques avec le préservatif, et je pense qu'il faut... Alors aujourd'hui, il est important de dire aussi que le préservatif n'est plus le seul outil. Il y a aussi la PrEP, c'est-à-dire la prise d'un médicament qui empêche de contracter
le VIH. Un traitement préventif, mais qui est donné à un certain nombre de populations seulement, les plus à risque, autant que je sache.
Oui, c'est toujours le cas. Tout à fait. Mais c'est vrai que quand on rencontre des difficultés avec le préservatif et qu'on a une sexualité, on peut tout à fait être éligible à recevoir de la PrEP. Mais en revanche, je pense que dans le même temps, il est très important de continuer, vu l'explosion des IST, en particulier chez les jeunes,
des maladies sexuellement transmissibles.
Des infections sexuellement transmissibles, elles explosent, hein, vraiment, depuis quelques années. Voilà, le préservatif reste le meilleur outil, il faut le publiciser davantage.
Tiens, on a un auditeur en Belgique qui est en Belgique, côté flamand, nous dit-il, et il nous explique qu'il y a une émission de télé qui parle de sexualité aux enfants, et l'un des épisodes, notamment, montre comment infiler un préservatif en remplaçant le sexe masculin par une banane, donc ce qu'on nous racontait tout à l'heure, la boucle est bouclée, et au fond, c'est aussi simple que ça. Je voudrais dire que Lynn Renaud, qui est toujours la vice-présidente évidemment du SIDAction, et Jean-Paul Gaultier, qui est le parrain cette année, seront invités par Ali Badou demain sur France Inter à 7h50. Merci à tous, vraiment, d'avoir participé à ce téléphone sonne, et portez-vous bien.